Radio Campus.
De toute façon, il va falloir fouiller leur passé à fond. Politique ? Politique, sexuelle, financière.
88.3.
Passez-moi au peigne fin tous les fichiers des gauchistes.
Quel bordel ça va faire en ville ?
Dans toute la France même.
Radio Campus 88.3.
Le temps est venu de fêter nos différences.
Oui, mais peut-être pas en public.
Right through my heart. I've got a soul full of action and I'm ready if you wanna start. 'Cause I'm a numero one, yeah, the ace in the pack. And I don't have to tell you that you gotta get off my back. And that's 'cause it's on. Get down, it's on. Baby raised right in the sun. When it comes to rock and roll, I never lost, I've always won. It's a 3, 2, 1, yeah, countdown to ignition. And baby, ride on, 'cause it's time you gotta listen. And that's 'cause it's on. Yeah, down it's on.
My last friend, whoa, just to give it all to you, child. Whoa, I climb the biggest mountain, whoa, just to prove it to you that I care. Front of a train, whoa, just to save your life, little girl. I cut my throat, whoa, just to give you my love. Hey, hey, hey. We'll be right back.
se fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeurs. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. Et maintenant, c'est l'heure donc de parler cinéma. Et donc, comme d'habitude, j'ai la chance d'être bien accompagnée. Et ce soir, eh bien, il y a Gob. Bonsoir, Gob.
Bonsoir,
Céline. Oh, on t'entend de loin. Eh bien, alors. Claude, on t'entend, je crois.
Je pense.
Oui, Claude, on t'entend.
Tu changes de micro ?
Non, c'est bon. C'est oui. Bon, je l'ai trouvé.
Ah, ça y est, je suis là. Eh bien, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Ravi de retrouver Céline. Voilà, j'espère qu'elle est en forme, qu'elle a pris une grande bouffée d'oxygène et d'air pur dans ce beau et grand pays francophone où elle est allée un petit peu. Se divertir et voir un petit peu ce qui se passait ailleurs.
Effectivement, ça fait beaucoup de bien de sortir de la France. J'en parlerai peut-être quelques minutes après. Et bonsoir Claude.
Bonsoir Céline.
Ah bah alors, dis donc, décidément.
Bonsoir, je sais pas si ça fonctionne.
Eh bien, si.
Bonsoir.
Ça y est, t'es là, Claude.
C'est bon ?
Oui, c'est bon. Tu
bonsoir
es là.
Bonsoir Céline, et bonsoir Xavier, et bonsoir à toutes et à tous. Et nous allons, comme vous le pensez, parler cinéma. Mais je pense que Céline, tu vas nous faire l'agenda.
Oui, effectivement, je peux commencer par introduire quelques dates assez rapidement. Déjà, vous savez certainement qu'il y a le festival Récidive. Voilà, je crois qu'on en a entendu parler un peu partout. Ce festival maintenant qui devient annuel, habituel au cinéma des Carmes. Sur une thématique cinématographique, enfin une thématique plutôt...
une année.
Sur une année, voilà, une période, mais oui, une année, vu que c'est l'année 1989 pour cette édition 2024. Et donc ce festival qui aura lieu du 25 au 31 mars, donc ça a déjà commencé, qui va se dérouler donc jusqu'au 31 mars 2024. Et il y a différents lieux partenaires. Évidemment, le cinéma des Carmes, où se passe la grande majorité de la programmation, et l'atelier Canopée, qui est, je crois, situé pas très loin du cinéma, où se déroulent d'autres projections, des tables rondes, des rencontres, des leçons de cinéma. Donc c'est très intéressant d'avoir donc ce festival et cette programmation qui sera très riche. Je regrette encore cette année de voir encore trop peu de films réalisés par des femmes. Néanmoins, il y a une super rétrospective sur les films de Margaret von Trotta, qui est une cinéaste allemande qui a contribué au nouveau cinéma allemand des années 60-70 et du Frauenfilm des années 70-80, qui est un courant qui prend généralement des femmes comme protagonistes dans un but d'émancipation. Donc on a la chance de voir ces films, et en plus elle sera là.
Samedi à 14h pour une leçon de cinéma.
Voilà, pour une leçon de cinéma, elle va recevoir aussi un prix, enfin voilà, il y a une... beaucoup de choses autour d'elle, et ne manquez pas ces films. Il y a deux films le vendredi 29, donc vendredi. Après-demain.
C'est le décalage horaire, hein, Céline.
Ouais, je crois que je suis encore. et le samedi 30 mars, il y aura donc trois films, si je ne me trompe pas, non, deux films. Ouais. Regardez la programmation sur le site du cinéma des Carmes. Il y aura trois films, parce qu'il y a aussi le film Hannah Arendt, Voilà, donc je conseille vivement cette rétrospective. Alors après, il y a aussi une programmation très riche sur l'année 1989, beaucoup de grands films, de beaucoup de cinéastes, mais qu'on connaît bien, assez bien, Jacques Rivette, Almodovar, Assayas, Spike Lee, Oliver Stone, Kiarostami, Wong Kar-wai, voilà, de très très grands cinéastes, effectivement, qu'on connaît déjà très bien. Voilà, si c'est voilà, l'occasion de revoir ou découvrir les films.
Je vous rappelle que l'année 89, c'est l'année de la chute du mur de Berlin.
Oui.
Et qu'il y aura Raymond Depardon vendredi soir au Carme pour présenter son film, je crois, La captive du désert, je crois.
Oui. Moi, c'est possible, j'ai pas vu.
Je vais juste dire un petit mot sur Maria von Trotta. Moi, j'ai un souvenir du premier film qu'elle avait co-réalisé avec son mari de l'époque, Volker Schwandorf, qui s'appelle Le coup de grâce. C'est un magnifique film en noir et blanc, c'est en 73. J'avais eu l'occasion de le voir au ciné-club sur ma petite télé de l'époque, hein, d'adolescent. Et c'est un film qui m'avait laissé un super souvenir, et d'autant plus que peu de temps après, j'avais eu la chance de voir L'honneur perdu de Katharina Blum, qui est un chef-d'œuvre absolu, incontestable. Voilà, donc je pense que ça sera quand même très très bien d'avoir la chance de rencontrer cette femme qui a un sacré parcours, et puis qui effectivement est une vraie militante, et comme tu le disais, qui a centré son cinéma sur les femmes, et puisqu'elle a fait ce film sur Rosa Luxembourg,
Anna Arendt,
et puis ce film magnifique aussi qui s'appelle Les années de plomb, qui parle du terrorisme d'extrême gauche en Allemagne, mais surtout centré sur un personnage de terroriste femme. Donc
qui est projeté le samedi 30 mars à 11h au cinéma des Carmes.
Donc franchement, il y a vraiment de quoi regarder et s'intéresser avec cette femme.
Oui, donc un grand merci pour cette rétrospective. Une autre date, là c'est au MOB, donc anciennement le muséum, le 2 avril, il y a le film « Pourquoi on se bat ?» de la militante Camille Etienne et Solal Moisson. Une projection donc le 2 avril à 20h au MOB. Une projection qui est suivie d'un débat avec le groupe local Oxfam d'Orléans et Quentin Guéquière, chargé de plaidoyer climat à Oxfam France. Voilà, ça peut être une programmation intéressante, surtout pour le sujet, le côté militant. Je ne connais pas le film, la qualité du film, mais pour le sujet, ça doit être intéressant. Voilà. On peut passer peut-être aux chroniques. Je vous parlerai peut-être. Parce que j'étais à Montréal.
Est-ce que tu as vu des films à Montréal ?
Tous les soirs. Tous les soirs. Mais c'était. Ah, donc, c'était un festival de films féministes. Et c'était grandiose. C'était un accueil vraiment que je n'ai jamais vu ailleurs, avec une qualité de programmation. Qui était vraiment intéressante au niveau de l'intersectionnalité. Au niveau inclusif, les films étaient en audio description, financés par le festival, et les échanges, les discussions qu'il y avait après les films étaient traduits en langue des signes. Donc vraiment, la barre est très très haute pour ce festival qui était vraiment vraiment intéressant. J'ai repéré quelques longs métrages que je proposerai à des associations à Orléans. Et j'espère, c'est compliqué de récupérer les fichiers, mais voilà, je vais tenter pour que quelques films soient montrés sur Orléans.
Tu pourras nous en parler quand même des, du film.
Là, très rapidement, parce que je voulais pas. Très rapidement, il y a déjà un documentaire sur le validisme. C'est une réalisatrice qui a un handicap physique très rare. Elle a les jambes plus courtes que son corps, en fait. C'est son premier film. Et en fait, elle s'interroge sur son handicap. Elle cherche d'autres personnes avec cet handicap. Et en fait, sur toute cette recherche, elle a une réflexion autour de l'handicap et des normes que impose notre société, parce qu'elle réfléchit aussi à se faire opérer. Et finalement, pourquoi se faire opérer quand on ne souffre pas physiquement ? Et finalement, elle aime son corps. Et donc, pourquoi ? C'est la société qui ne l'aime pas. Et donc, c'est toute cette réflexion, parce qu'elle va rencontrer aussi des parents d'enfants handicapés. Donc, tout ce questionnement est hyper intéressant. Et c'est hyper émouvant, mais aussi avec des passages très drôles. Elle est vraiment... Elle est très lumineuse, en fait. C'est une femme formidable qui se bat justement pour contrer le validisme. Donc voilà, il y a ce film que j'aimerais beaucoup le voir projeté à Orléans. Et puis un autre documentaire, là, que je me souvienne du nom... C'est la trans Jenna Marvin, qui est une artiste russe, qui... Donc en Russie, c'est quand même compliqué d'être transgenre. Et en tant qu'artiste, elle utilise l'art de la performance pour militer et repousser les limites en fait imposées par le gouvernement russe qui est campé sur les traditions. Donc elle défend toutes les valeurs LGBTQIA2S+. J'y suis arrivée. Et donc, on suit tout son combat. C'est une artiste qui performe dans la rue, donc qui se fait arrêter. C'est terrible. On suit tout son parcours, aussi sa relation avec sa famille. Comment elle lutte, en fait. Comment elle lutte pour être acceptée et pour faire accepter les personnes transgenres. Et donc, c'est Queendom de Anya Galdanova, une réalisatrice russe. J'ai été vraiment bluffée, très très bien construit, comme des documentaires vraiment vraiment très très intéressants. Voilà pour les deux. Après les autres films, j'ai aussi vu des courts métrages et tout hyper intéressants. Bon, voilà, je pourrais passer des heures à en parler, mais on n'est pas là pour ça. Et j'espère vraiment qu'on pourra les découvrir sur Orléans dans les mois prochains. Voilà.
En plus, tu peux faire un super enchaînement, là, puisque tu parlais de féminisme. Hein.
Oui, oui, effectivement, on peut faire un enchaînement avec peut-être une petite pause musicale pour les auditoristes, peut-être juste avant et justement pour enchaîner quand même avec le film dont on va parler, car je suppose que tu parles du film italien Il reste encore demain de Paola Cortellesi. On va vous en parler juste après cette pause musicale. Ah, mais j'ai pas la bande originale de... Ah, mince. Zut. Elle n'existe pas. Ok, eh bien, tant pis. Tu voulais parler de Une vie aussi. Je pense que je vais passer la bande originale du film Une vie. Tant pis pour Il reste encore demain. Alors, Une vie, c'est un film de James Hawes, merci. Ouais. Et donc, il a fait appel au compositeur allemand Volker Bertelmann, qui a notamment reçu là tout récemment l'Oscar de la meilleure musique de film avec À l'Ouest, rien de nouveau, d'Edouard Berger. Et donc, on vous propose d'écouter ce morceau et on se retrouve tout de suite après.
Thank you.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. On vient d'écouter un morceau de la bande originale du film Une vie de James House. Et puis alors, si je n'ouvre pas les micros, House, c'est ça, James House, c'est bon, j'y arrive. Gob, tu l'as vu ?
Oui, je l'ai vu. Alors, j'avais pas plus envie que ça d'aller le voir, en fait, parce que bon, j'avais lu quelques critiques. Hein, je me laisse aller des fois au péché de lire les critiques sur les films et qui étaient pas forcément très bonnes. Et finalement, c'est ma compagne qui m'a persuadé d'y aller. Elle voulait absolument le voir. Moi, c'est un film qui m'a laissé une impression mitigée. C'est une belle histoire. Y a rien à dire là-dessus. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un journaliste anglais qui appartient à une association humanitaire et qui part dans les pays de l'Est, qui part en Pologne et qui va faire passer plus de 200 familles, enfin femmes, hommes, enfants en Angleterre par des trains pour les sauver de ce qui s'annonce, c'est-à-dire Hitler vient d'envahir la région des Sudètes, il va envahir la Pologne donc il voit cette misère terrible, cette répression et il va remuer ciel et terre pour arriver à faire venir ces gens. Et c'est quelqu'un qui va rester très humble puisque le film en fait est bâti sur le fait que le personnage donc joué par Anthony Hopkins et qui est joué par un acteur plus jeune effectivement dans la partie en Pologne va rester quelqu'un de très effacé et qui ne va jamais vouloir accepter cette étiquette de héros jusqu'au moment où effectivement son passé, si on peut dire, va le rattraper, puisqu'une émission de télé va faire que toutes les personnes qu'il a sauvées et qui sont encore en vie vont le rejoindre sur ce plateau de télé dans un grand moment d'émotion collective. Et donc, il va être mis sur le devant de la scène. Et donc, le film raconte effectivement en parallèle, un parallèle, je trouve, un petit peu plat et mécanique et répétitif, ce qui se passe en Pologne en 38 et ce qui se passe en Angleterre de nos jours avec le quotidien d'une banalité affligeante de cet homme. Alors, ils ont bien insisté sur la banalité de son quotidien pour mettre en parallèle avec ce qu'il a fait dans le passé. Donc voilà, moi j'ai trouvé que le film était quand même assez plat. Ça manque d'intensité, quoi. Je trouve que cette histoire méritait quand même un traitement autre. Là, on est vraiment dans une espèce d'académisme hollywoodien, plan-plan. Bon, Hopkins, c'est un grand acteur, on le sait, mais là, il fait un numéro à Oscar, hein, comme on dit des fois les numéros à Oscar. Là, je pense qu'il était nominé. On sent que derrière, il y a la course à la récompense. Voilà. Bon, moi, c'est un joli film quand même, c'est une belle histoire, mais moi, c'est un film qui me laissera pas un souvenir impérissable et c'est quand même pas du très très grand cinéma.
Et le réalisateur, c'est un film. Enfin, c'est.
Il moi, a je déjà connaissais pas ce réalisateur non. Personnellement. Non, non, non plus. Voilà, donc. Okay. Mais bon, quand
toi,
même.
Tu sais pas si c'est un premier film.
Non, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est un film qui méritait mieux qu'une mise en image un petit peu plate et un récit finalement assez conventionnel.
D'accord. Bon, dommage. Donc, c'était Une vie de James Hawes. Merci, Gob. Le film suivant, peut-être que Claude, on peut.
Tu l'as vu Une vie, non ?
Non, je ne l'ai pas vu. D'accord. Non, non, non. Okay.
Bah, le film suivant, je te laisse parler de La salle des profs, puis je te dirai ce que.
Eh bien, allez, pour La salle des profs.
Ok. Écoute, La salle des profs, oui, tu en avais parlé la semaine dernière. Claude, je sais que tu n'avais pas aimé le film plus que ça. En tout cas en termes de cinéma, parce que toi c'était souvent sur l'image. Moi j'ai trouvé que c'était quand même un film intéressant. J'ai trouvé le scénario plutôt bien construit. Alors c'est vrai que Claude, t'avais raison, ça brasse un peu tous les thèmes à la mode entre guillemets, mais bon, pourquoi pas. Et j'ai trouvé que justement le scénario était assez juste sur tout ce qu'il montre effectivement de, on va dire des maux de la société contemporaine. Oui, et je trouve que le film réussit à entretenir un récit qui monte en intensité, en suspense, si on peut dire, et installe quand même un climat de plus en plus inquiétant, et avec cette femme qui se retrouve prisonnière d'une société qui l'enserre dans une gangue de jugements, de condamnations. Je trouve qu'à ce niveau-là, le film fonctionne quand même plutôt bien. Pour moi, là, mais c'est quand même un bon film. C'est pas un très grand film, ça restera pas dans les mémoires éternellement, ça je suis bien d'accord. Mais je trouve que c'est quand même un bon film, bien écrit et bien construit.
Quelle est son origine du réalisateur? Il est allemand. D'accord.
Oui, mais je pense d'origine turque.
Oui, je pense que
parce que son nom effectivement a pas trop n'est pas très allemand. Mais d'accord. Et là aussi, on ne sait pas si c'est un premier film. Il a été nominé quand même au.
Je pense que c'est un premier film.
C'est un premier film.
Je pense, là, en l'occurrence. Oui.
Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Xavier. C'est ce que j'avais dit la dernière fois où ce film résume tous les maux de notre société. Le problème, c'est que tout l'intérêt du film sont dans les dialogues et dans le scénario. Parce qu'il n'y a pas de cinéma.
Ah.
Je veux dire que c'est. Tout, tu l'as dit, c'est dans le scénario et dans les dialogues. Et je veux dire, il n'y a pas de plan, c'est mal filmé, c'est.
Il y a des plans un peu sévère.
Il y a des plans, il y a des plans séquences. Enfin, c'est filmé. Excusez-moi, mais c'est filmé avec les pieds, quoi. C'est pas. On n'a pas affaire à un cinéaste là. On a affaire à quelle personne qui raconte une histoire qui est. C'est dommage parce que le scénario. Et le sujet méritait nettement mieux. Et d'ailleurs, j'avais vu un film de très longtemps à Angers, qui était sur à peu près le même sujet, qui était un film hongrois. Mais alors, il n'est pas sorti, hein. Tout au moins en France. Mais alors, c'était d'une force. Là, c'est un film qui manque totalement de force, parce qu'on est au cinéma et il n'y a pas de force dans les images. Donc,
d'accord, tout est dans les dialogues.
Moi, je suis agrippé au dialogue pour suivre, mais pas aux images, quoi. Mm-hmm. Donc, alors, de là, en Allemagne, on va faire un film. Je veux dire que, bon... Alors, je sais bien qu'il n'y a plus de cinéastes, mais quand même...
Après, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'est que... ça, c'est aussi un débat un peu actuel au niveau du cinéma. C'est que de plus en plus régulièrement, on essaye effectivement à toute force de vendre aux gens des films qu'on surestime souvent, dont on fait des phénomènes. Là, on parlera du film italien après, qui a été un énorme succès en Italie et qu'on essaye de nous vendre en France sur ses 5 millions d'entrées en Italie. Là, la salle des profs, on nous le vend sur le phénomène de société en Allemagne. Donc, je pense qu'il faut prendre de la distance aussi avec ces arguments commerciaux. Entre guillemets, autour des films. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que je pense que effectivement c'est un film débat, comme ça a toujours existé, hein, dans le cinéma. Et je pense que la mise en scène, bon, qui n'est pas extraordinaire, je suis d'accord avec toi, Claude, je pense qu'elle est pensée aussi comme justement un film débat où les personnages sont enserrés dans leur situation et... où effectivement le réalisateur se refuse à aérer, on va dire, par une mise en scène peut-être un peu plus élaborée. Enfin, c'est ma façon de ressentir le film. Peut-être effectivement que tu as raison et que effectivement il n'y a vraiment pas de cinéma.
Alors moi qui lis rarement les critiques et qui écoute non pas plus les critiques, notamment Le Masque et la Plume, je suis allé en podcast réécouter ce qu'ils avaient dit sur ce film. Et je ne sais plus quel... Il y a un garçon qui a dit exactement la même chose que moi, quoi, qu'il n'y avait pas de cinéma, et il y a une femme qui l'a repris. « Ah, si, c'est quand même du cinéma. » Non, le cinéma, c'est quand même le langage des images. Et là, j'aimerais bien savoir où est le langage des images. Là. Mais il y a une dérive totale à la fois de la critique et une dérive aussi du cinéaste. Je vais être très méchant, mais c'est un film qui ferait un excellent film à la télévision pour les dossiers de l'écran, comme ça existait il y a 25 ans ou 30 ans.
Bon, en tout cas, il est encore à l'affiche, allez le voir. Hein. Comme ça, vous ferez une...
votre propre
avis. Vous trancherez.
Et je vous parlerai tout à l'heure d'un film qui est absolument
l'opposé.
Tout à fait l'opposé de La Salle des Profs.
Eh bien, est-ce que...
On te laisse un peu la parole, Céline.
Avant la pause musicale, la prochaine, ce qui ou remarque aussi, on peut très bien, vu qu'on a un peu teasé, On peut effectivement donc parler maintenant du film italien Il reste encore demain, donc de Paola Cortellesi et qui a fait, comme tu as dit, 5 millions d'entrées en Italie. Donc un film phénomène. C'est un film qui se déroule en 1946 et qui aborde les violences conjugales. Donc dans une Italie d'après-guerre, c'est le premier long métrage de Cortellesi, qui est une comédienne humoriste très connue en Italie, et elle joue le rôle principal dans le film, le rôle de Delia, qui est battue par son mari, qui a deux fils qui ont l'air de suivre le chemin du père, et une fille, une grande fille, l'aînée, pour qui elle garde l'espoir qu'elle ait un avenir différent. Donc voilà, comme on disait, le film a eu énormément de succès en Italie, même plus que Oppenheimer ou Barbie. J'ai vraiment été étonnée. Donc c'est vraiment un phénomène qui a attiré même apparemment les écoles. Enfin, c'est vraiment un succès populaire qui dénonce le patriarcat. Donc sur le fond, c'est nécessaire, ce film, hein, effectivement. Mais alors par contre, la forme cinématographique m'a pas trop convaincue. C'est tourné en noir et blanc, mais c'est une mise en scène qui est joyeuse, voire genre comédie musicale, pour parler de violence conjugale. C'est osé, remarque, pourquoi pas, hein, mais moi ça m'a pas convaincue du coup. Ça m'a laissé à distance. Et puis alors, les personnages sont très manichéens. Il n'y a pas de profondeur, t'es mauvais ou t'es bon. Enfin, c'est vraiment. Les personnages ne sont pas très bien construits, enfin, c'est très simple, hein, comme construction. Et donc, elle choisit un noir et blanc très néo-réaliste qui pourrait appuyer l'histoire dans une réalité, mais en fait, le contraste avec la mise en scène, je trouve que ça rend pas crédible, en fait, l'histoire. Et du coup, je suis un peu étonnée de ce grand succès. Mais par contre, je ne m'attendais pas à la fin.
Il ne faut rien dire sur la fin.
Voilà, je dis rien. Effectivement, je dis rien. Et bon, ça, pourquoi ? Ok, bravo pour la surprise. Alors, ou peut-être que moi, je suis un peu nulle et j'ai peut-être, mais bon, c'est peut-être un peu naïf du coup le film. Enfin, je suis un peu déçue, mais bon, c'est peut-être un film comme Barbie justement qui va conscientiser des personnes qui n'ont pas forcément accès aux valeurs aux idées du féminisme et qui peut voilà s'ouvrir à une plus grande population. Donc bon, pour ça, pourquoi pas. Mais au niveau cinéma, je suis un peu étonnée.
Bah écoute, Céline, pour une fois, je vais te rejoindre complètement. Moi, j'ai vraiment eu du mal avec ce film. Honnêtement, le premier quart d'heure, je me suis dit, ça va être une catastrophe. Vraiment, hein, mais très honnêtement. Après, ça redresse quand même un peu la barre. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense effectivement, comme tu le disais, que la réalisatrice, c'est évident qu'elle a voulu rendre hommage, mais pas seulement au néo-réalisme italien. Bon, effectivement, le fait que ça soit en noir et blanc, que ça se passe en 46, on pense à Rome, ville ouverte de Rossellini, forcément. On pense à Païssa de Desica. Mais je pense qu'elle a voulu aussi rendre hommage à toutes ces comédies italiennes, grinçantes, sociales, tous ces grands films de Monicelli, de Dino Rizzi, de Germi. Elle a voulu rendre hommage à tout ce cinéma-là, et puis aussi à Affreux, sale et méchant de Ettore Scola, à part qu'elle n'arrive jamais au niveau de ces films-là. Et surtout, moi, ce qui m'a gêné, effectivement, c'est que, quelque part, comme tu disais, le sujet, c'est bien, il faut rappeler les ravages du patriarcat, il faut rappeler que cette société italienne de l'après-guerre, était encore complètement sous le joug de l'autorité de l'Église, qui donnait tout pouvoir aux hommes sur leurs femmes, effectivement. Et puis les violences conjugales, effectivement, qu'il faut le continuer à les dénoncer. Mais comme tu le disais, ces scènes où elle met en chorégraphie les violences conjugales sur fond de variétés sirupeuses italiennes. Alors ça peut fonctionner parce que effectivement c'est les paroles de ces chansons qui sont complètement en opposition à ce qui se passe à l'écran. Je trouve que ça peut fonctionner un petit peu, mais vite c'est rattrapé par la caricature. Puis comme tu le disais, effectivement les personnages sont tous extrêmement manichéens, tout est très caricatural. Il y a une scène avec le grand-père qui est mort. Elle voudrait nous faire de la comédia dell'arte, mais on est plutôt dans le comique de boulevard. Et tout est comme ça. Voilà, c'est que tout le temps on se dit, mais quel dommage, quel beau film ça aurait pu donner. Et elle arrive jamais à faire décoller tout ça. Effectivement, jusqu'à cette scène finale qui est plutôt surprenante, qui est plutôt, que moi j'ai trouvé plutôt réussie et qui redonne du coup du cachet au film, mais on est déjà bien trop tard dans le film. Et le reste, effectivement, est quand même plutôt plat, plutôt caricatural, même si, bon, moi j'ai quand même envie de sauver un peu le film. Il y a quelques jolies scènes, il y a quelques moments où on voit quand même que cette réalisatrice peut amener quelque chose d'intéressant, mais à l'arrivée, c'est quand même une déception. Mais moi, je comprends que le film ait été un gros succès en Italie par le fait que c'est un pays, je pense, qui a encore des comptes à régler avec son passé, avec ses traditions, et je pense que c'est pour ça que ce film a bien fonctionné.
Mmh. Ouais, je te rejoins complètement. Eh bien, on peut faire donc une pause musicale avant de passer au film suivant. Et je vais un peu choisir le film suivant, puisque je pensais du coup vous faire écouter un morceau du film La vie de ma mère, qui est donc c'est un morceau qui est interprété par Agnès Jaoui, qui joue dans le film donc de Julien Carpentier, et qui a été composé par Domla Nena, compositrice brésilienne. Et donc, on écoute le morceau et puis on se retrouve toujours après sur Radio Campus Orléans.
Me lo dijo una flor, abrazo un gris dolor, sonrisas en la niebla. En tu alma un remolino, en el vientre divino, flores de primavera. Lo dijo el colibrí, madres pueden abrir tantos mares y tierras. Historias contarán, montañas cruzarán, la herencia de la entrega. Y cuando por las noches quisiera soledad, me pierda tu sonrisa, luz en la oscuridad. Solo quiero saber de ti, si me lo has perdonado. Te doy todo el amor y mis años dorados. Cuando por las noches quisiera soledad, me pierdo en tu sonrisa, luz en la oscuridad. Solo quiero saber de ti, si me lo has perdonado. Te doy todo el amor y mis años dorados. Te doy todo el amor y mis años dorados.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. On vient d'écouter donc ce très très beau morceau interprété par Agnès Jaoui, donc on peut retrouver dans le film actuellement à l'affiche La vie de ma mère de Julien Carpentier. Alors je ne l'ai pas vu, mais Gob, toi oui. Du coup, tu vas pouvoir
en parler. Je vais vous parler rapidement du film. Je voulais juste faire un comment tu viens de passer Agnès Jaoui au chant. Je voulais juste faire un petit salut à cette actrice formidable parce que j'ai eu l'occasion de la voir quand je suis allé en vacances à Toulouse chez ma sœur il y a 2 mois. Elle était à Toulouse pour présenter. Elle était en Toulouse 4 soirs d'affilée pour présenter des films du Festival du cinéma des Suds. Et donc elle présentait un film tous les soirs. Et cette femme, elle est formidable. Elle est aussi nature et intéressante quand tu l'as en face de toi, en train de débattre, qu'on la voit dans les émissions à télé ou encore récemment au César, quand elle a reçu son César d'honneur, où elle a fait un discours vraiment épatant. Et voilà. Donc je voulais saluer cette femme qui en plus est non seulement une bonne actrice, mais une remarquable scénariste, comme chacun le sait, une excellente cinéaste, et qui chante bien. Quel talent n'a pas cette femme, voilà.
Clairement, oui.
Donc, le film La vie de ma mère, on en parlait là un peu hors micro avec Claude, c'est un film qui va rejoindre la légion des premiers films français autobiographiques, puisque Julien Carpentier, le réalisateur, parle de sa relation à sa mère qui était une personne bipolaire, de toute la tendresse qu'il a quand même pour elle. Voilà, donc il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Hein. Après, c'est un joli film, franchement. C'est bien écrit. Comme je viens de le dire, Agnès Jaoui est vraiment très, très bien. Il y a William Lebgill, cet acteur qu'on a plutôt l'habitude de voir dans des comédies, qui, là, dans un registre plus doux amer, est vraiment, vraiment bien. Et leur duo à l'écran fonctionne vraiment remarquablement, puisque l'essentiel du film se concentre sur eux. Et c'est un joli film. C'est assez émouvant. On se laisse quand même prendre par l'histoire. Après, voilà, je rejoins une fois de plus Claude, c'est quand même pas du très grand cinéma. Mais j'ai quand même passé un moment agréable. Et puis, voilà, c'est le plaisir de passer 1h40 avec deux excellents acteurs dans un film bien écrit et au final plutôt émouvant.
Bien. Eh bien, il est encore à l'affiche si vous souhaitez le voir. Claude, tu l'as vu peut-être ? Du coup, tu voulais.
Non.
D'accord. Du coup, tu veux à toi la parole, tu as le choix.
Merci. Alors, je vais vous parler d'un film qui est, alors qu'à l'opposé de la salle des profs, c'est le film de Stéphane Brisé, Hors saison, où là aussi, il quitte ses sujets de prédilection où il excellait. Moi, je trouve que En guerre ou. Comment ça s'appelle ?
La loi du marché.
Ce sont des films extrêmement. Ça vaut le Ken Loach, je suis désolé,
ah oui.
Mais ça vaut le Ken Loach et c'est même pas récompensé à Cannes.
Je suis d'accord.
Enfin, on s'est fâché avec Taverny à ce sujet, très violemment d'ailleurs, mais alors qu'il n'était pas en cause. Mais ça vaut. C'est des films qui auraient mérité si c'était
Vincent
pas.
Vincent Lindon avait été récompensé.
Oui, c'est ce qu'il m'a répondu Tavernier. Oh, mais le monsieur Van Loo, il était. Oui, peut-être, mais pas le cinéaste. Il ne récompensait pas le film. Bon, enfin, de toute façon, c'est pareil, hein. C'est comme Holly Motors. On récompense pas un film qui parle de cinéma, bien sûr. Bref, ceci étant dit, il quitte donc ses amours de prédilection, qui sont où il excelle, pour parler d'une façon presque intimiste d'un acteur très connu, qui est joué par Guillaume Canet, qui part en cure de remise en forme dans un hôtel 5 étoiles. Parce qu'il a, bon, il fait une pause dans sa vie, il se pose beaucoup de questions. Et alors là, si vous voulez voir ce que c'est que du cinéma, vous allez voir quelqu'un qui sait cadrer, qui sait filmer, qui sait poser sa caméra, où ça ne se barre pas dans tous les sens. Je parle de la salle des profs. Là, c'est l'anti-salle des profs sur le plan filmique, hein, bien évidemment. Le sujet, c'est, lors de cet acteur, lors de cette cure, tout à fait par hasard, il retrouve un de ses amours qui doit dater de 10 ou 15 ans. Et puis, ils hésitent et puis ils se revoient. Alors, je ne vais pas vous raconter le film, parce que sinon, vous n'allez pas aller le voir. Oui. Et la fin, je veux dire que c'est un film très, 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 très. Non, je l'ai dit, c'était intimiste, mais plein de sensibilité. Ce qui n'est pas vu. C'est un type très sensible, Stéphane Brisé, mais sa sensibilité, elle s'exerçait dans les rapports humains. Alors que là, c'est dans les rapports d'amour. Et on passe un bon moment. C'est pas un très grand film, c'est pas ce qu'il a fait avant, mais c'est vraiment un film qui mérite. Si vous voulez passer une heure et demie. Bon, et j'avais posé la question. Quand il est venu présenter son film, ça fait marrer toute la salle. Je ne sais pas pourquoi. C'est est-ce qu'on peut aimer deux fois la même femme à intervalle de 15 ans ?
Bah, c'est un peu c'est ce dont parle le film. Je sais pas pourquoi
c'est ça dont parle le film. Quoi. Est-ce qu'on peut, parce qu'entre 15 ans, on a changé, on n'a pas la même personne, on s'en compte. Bon, bah, allez voir ce film.
C'est sur la permanence des sentiments.
Oui, exactement. C'est ce que m'a répondu Guillaume Canet. Ah. Mais l'amour, l'amour est plus fort que tout, monsieur Mathilde. Ah
bon. Et tu sais, la permanence des sentiments, c'est Flaubert. Hein, donc, oui. Tu vois, c'est.
Mais il fait un cinéma beaucoup plus engagé, habituellement, plus militant. Oui, oui. Et là, cette fois, il est.
C'est un film d'amour.
D'accord.
C'est un film intimiste. Eh ben... C'est complètement. Mais c'est réussi. Hein.
En fait, Brisé, il a fait son Brève Rencontre.
Ouais, ouais.
Voilà. C'est.
L'autre film qui est dans la même veine, c'est un film. Alors, c'est un premier film qui n'est pas autobiographique. C'est un film d'un Suisse qui s'appelle Maxime Rapaz. Il s'appelle Laissez-moi. Alors, je ne vais pas vous raconter là non plus l'histoire, puisque.
Heureusement qu'il n'a pas appelé son film N'y allez pas.
Non, mais c'est Jeanne Balibar qui joue le film. C'est une femme qui vit seule avec son fils qui est handicapé. Et tous les mardis, elle s'échappe pour aller dans un hôtel où, d'une façon très naturelle, elle va dans la salle de restaurant, elle déjeune et elle drague un mec pour monter dans la chambre aussitôt après. Monsieur, bonjour. Ça vous intéresserait de monter avec moi dans le champ. Et c'est fait d'une façon très naturelle, alors que c'est une femme très pudique, très en retenue. Et ce film, justement, alors, lors de ces différentes rencontres, il y a un jour, un monsieur, parce qu'ils sont tous de passage, lui, il va rester. Alors, je ne vous raconte pas ce qui va se passer après, parce que vous n'allez pas aller voir le film. Il va rester et vous verrez la suite. Ce qui est très drôle, c'est que, il y a un moment, il y a une visite de barrage, et c'est un film qui est tout en retenue. C'est comme si, en fait, ce barrage retenait toute l'eau. Et à un moment, peut-être que cette femme, eh ben oui, ça va partir. Et là, ben vous irez voir le film, et vous verrez bien si, effectivement, la retenue craque ou craque pas. Mais là aussi, c'est un film très, très sensible, très délicat. Pour un premier film, je trouve que c'est très... Pas un grand film, mais... Au moins, il sait raconter une histoire, il sait être dans l'intimité, il sait faire passer la sensibilité. C'est déjà intéressant. Et le dernier film dont je vais vous parler...
Qui donne envie, en tout cas.
Oui, oui. Le dernier film dont je vais vous parler, c'est un film. Alors là, ça s'appelle Chronique de Téhéran. Bienvenue chez Ubu. Alors là, c'est dramatique.
Ubu à Téhéran.
Oui, Ubu à Téhéran. C'est 9 portraits. Alors, c'est une femme qui cherche du travail, donc c'est un entretien d'embauche. Alors, sur le plan filmique, on le voit, c'est pas du champ contre champ. On voit constamment la personne qui est filmée, on entend les questions, on voit des fois les bras qui bougent, mais on ne voit jamais la personne qui pose les questions, dans les 9 portraits qui sont faits. Alors, on trouve successivement une jeune fille qui cherche du travail, donc elle se fait draguer par le mec, bien évidemment. Un chauffeur de taxi qui va chercher son permis de conduire et il est tatoué et le type lui pose plein de questions sur les tatouages, le fait des... Enfin, je veux dire, on est... Mais ça n'a rien à voir, mais dit monsieur, je vais chercher un permis, peut-être. Ensuite, on a une femme qui a perdu son chien, qui vient récupérer son chien au commissariat. On entend le chien, le type lui dit, mais madame, il n'y a pas de chien ici. Mais si, je l'entends. Non, madame, c'est pas lui que vous entendez, c'est un autre chien. Enfin, je veux dire... On lui apporte un autre... On est chez les fous, quoi. On est chez les fous. Vraiment, c'est un film qui fait peur, parce que c'est... Il ne faut jamais donner le pouvoir à des petits fonctionnaires. Jamais. Jamais. Ils en abusent. Et ils ont affaire à une population qui est complètement tétanisée. Les gens qui sont en face sont tétanisés. Je crois que il y a une femme, on l'a dit, mais madame... Vous avez une contravention et vous devez la payer parce que vous n'aviez pas votre fichu en voiture. Il dit, vous avez la photo? Oui, on a la photo. Mais monsieur, je vous dis que j'avais mon fichu. Non, madame, vous avez... Enfin, toute la... Et en fait, on s'aperçoit que c'était son frère qui... Elle dit, c'est papa et moi, c'est mon frère qui conduisait. Enfin, toute l'absurdité, là. Toute l'absurdité de cette société iranienne, qui est une société de schizophrène, qui est une société qui terrorise sa population. Là, on... Alors, le sommet, c'est quand même... Alors, je termine par ça. C'est le scénariste qui va présenter son scénario. Et finalement, ça, faut me le réécrire. Et tout. Alors, le type, il doit avoir un cahier comme ça. Et à la fin, il arrache toutes les poches. Il reste 2 pages. Et voilà le scénario. C'est l'absurdité du pouvoir donné à des gens qui ont... Mais vraiment, leur seule existence, ces gens-là, c'est de terroriser les gens et d'exercer le peu de pouvoir qu'ils ont. C'est un truc... C'est vraiment un film. Moi, ça me fout la trouille quand je vois des films comme ça.
Et c'est un film de Ali Asghari.
Ils sont 2 réalisateurs, je crois.
Et ils sont 2 sur...
Sur le
d'accord.
Film.
Oui, effectivement, il y a Ali Reza Khatami aussi sur la réalisation. Et, mais Asghari, il est, c'est son 2e film, j'ai l'impression. Il est,
alors, il est tout récent. Je sais qu'en Iran, pour sortir les films, ils les sortent par petits bouts. Alors là, effectivement, ils font, y a 9 portraits, donc il y a 9 films. Finalement, il y a 9 films.
Okay.
Non, mais c'est des... Alors, l'effet scénique, c'est très bien. Le champ contre champ aurait donné moins de force au film. Et le fait qu'on ne voit pas ces gens qui terrorisent leurs homologues qui est en face, qui viennent chercher un service. Ce sont des gens qui viennent chercher un service, mais ils viennent pas là pour être maltraités psychologiquement. Et c'est ce qu'on fait.
Mmh. C'est encore du grand cinéma iranien alors.
Pas du grand cinéma. Non, c'est pas du grand cinéma parce qu'il y a pas d'effet de caméra. Il y a très peu de cinéma. Il y a même pas du champ contre champ. C'est uniquement un portrait fixe.
Voilà, ah, d'accord.
C'est ça. À chaque fois, c'est
d'accord,
un portrait fixe.
D'accord, j'avais pas compris.
Non,
ok.
Non, portrait fixe. Il n'y a pas de. Sauf à un moment dans la voiture, on voit la photo de la jeune femme dans la voiture, c'est son frère qui conduit. Il dit, bien sûr qu'il n'a pas le fichu, mon frère. Enfin, je veux dire, c'est.
Mm-hmm.
Les gens, ils n'arrivent pas à s'expliquer, ils n'arrivent pas à débattre. Mais c'est pas moi. Enfin, on est vraiment chez les schizophrènes, quoi. C'est affolant de voir une société.
Donc, bien, c'est donc Chronique de Téhéran, de Ali Asghari et Lireza Khatami, qui est encore à l'affiche. Et est-ce que tu veux parler de... Tu as encore 3-4 minutes, si tu veux parler du film turc.
Oui, c'est un film... alors, c'est très autobiographique. Notamment, il y a le portrait de son père, qui est un homme très puissant...
Tu peux redire le titre du
Yurt.
Yurt.
Y-U-R-T. C'est un premier film. Et c'est sa vie, en fait. Il a été vraiment dans ce collège, c'est ce qu'il a subi. Et son père s'est vraiment contenté, s'est vraiment comporté comme il est dans le film. Enfin, comme est le personne dans le film. Et on lui a posé la question, comment ça se passe avec son père. Il dit, mon père est ce qu'il est, mais si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Il y a une espèce de pardon chez le réalisateur, qui est un garçon très, très, très sympathique, très discret. Donc, enfin, moi, j'ai vu les affiches Yurt, je n'ai pas encore vu les affiches. Mais il a été primé déjà, je crois, à Venise. Locarno, Venise, mais c'est le Grand Prix d'Annonay. Et quand je vous en parlerai quand j'irai mieux comment s'est passé ce film, parce qu'on a quand même primé, on avait droit de donner 2 prix, le prix du jury et le prix spécial du jury. Et le prix spécial du jury, j'ai encore relu mes notes, il a été cité que 2 fois en 3e position par les neuf jurés. Et il se trouve récompensé. Et je vous dirai pourquoi il s'est trouvé récompensé. Mais pour Yurt, il n'y a eu aucune discussion. Ça a pris, même pas 10 minutes, c'est Yurt, point terminé. Mais alors après, ça a pris 3h30.
Mais c'est vrai qu'on le cinéma turc a quand même une vraie importance dans le paysage cinématographique mondial. On se rend compte quand même qu'il y a régulièrement des films turcs très intéressants. Et en plus, je pense qu'il y a une vraie sensibilité, comme tu disais. C'est très souvent des films qui tournent autour d'histoires de famille. Les films de Bilge Ceylan tournent très souvent autour des relations de familiales. Je pense que c'est quelque chose de très... Et puis aussi de la... ces gens qui souvent se heurtent à une société archaïque et qui, eux, sont plus dans le modernisme, mais qui se heurtent aux freins et à l'archaïsme de la société turque. Et tu parles des films iraniens avant, pour aussi rejoindre les films iraniens. Donc je pense qu'il y a tout un débats de société, des trucs qui sont posés par cette cinématographie, on va dire au sens large de l'Asie, d'une partie de l'Asie. Et c'est vraiment intéressant de voir ces films parce qu'on se retrouve toujours face à des thématiques finalement communes. Et c'est ça aussi le cinéma, ça rapproche des cinéastes, des gens autour de thématiques communes par rapport au pays où ils vivent. Et nous, on a aussi la chance, d'être dans un pays où on reçoit toutes ces cinématographies. On le redira jamais quand même assez, la chance qu'on a en France de pouvoir voir à ce point toutes les cinématographies du monde. On est peut-être le dernier pays dans le monde où on peut voir autant de cinématographies différentes. Et croisons les doigts pour que ça continue.
C'est un film qui se passe dans les années 90 en Turquie.
Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Voilà, c'était une
heure. Merci Céline.
Merci Céline.
Merci. Merci beaucoup.
Surtout, restez sur Radio Campus Orléans parce qu'il y a Chip Meadow qui arrive, qui va donc enchaîner. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines.
Je serai absent.
On verra normalement peut-être dans 2 semaines, mais la semaine prochaine, donc mercredi toujours de 19h à 20h, eh bien c'est l'autre équipe, Vincent, Arnaud et Lucas qui parleront aussi de cinéma. Et puis, voilà.
Je vais vous dire où je serai. Je serai à sa première fois au Festival de Brive, qui est un festival de moyen métrage. C'est-à-dire, ce sont des films de 45 minutes. Ce qui est, effectivement, ce sont des films qui n'ont pas beaucoup d'espace dans le paysage cinématographique.